OMA a réussi un dernier tour de force en créant un passage multifonctionnel vers les autres pavillons. Beaucoup plus qu'une simple voie d'accès souterraine, le passage Riopel est composé, dans sa première section, de trois galeries présentant l'hommage à Rosa Luxembourg, un triptyque du célèbre artiste québécois Jean-Paul Riopel. Cette œuvre, la plus longue jamais réalisée par l'artiste, est probablement la plus importante de la collection nationale. Le récit de cette œuvre magistrale débute en novembre 1992, moment où Jean-Paul Riopel apprend la mort de Joan Mitchell, une artiste américaine avec qui il a partagé près de 25 années de sa vie. Quelques jours après que l'annonce lui parvienne, Riopel entreprend l'hommage à Rosa Luxembourg, qu'il termine en janvier 1993. L'œuvre se compose de trois sections d'une quinzaine de mètres de long, divisées en 30 vignettes. Fresque au vocabulaire complexe, elle évoquerait, selon certains historiens de l'art, les liens étroits que Riopel a entretenus pendant sa vie avec ses amis artistes et écrivains. Ce serait la dernière œuvre d'envergure réalisée par ce dernier. Une question demeure néanmoins. Qui est cette Rosa Luxembourg à qui l'artiste rend hommage? Née en Pologne en 1870, Rosa Luxembourg a d'abord été militante révolutionnaire dans son pays d'origine, puis en Allemagne, où elle devint l'un des membres fondateurs du Parti communiste. Assassinée par des militaires en 1919, pendant la Révolution allemande, en raison de son action politique, Luxembourg a laissé derrière elle de nombreux écrits politiques encore étudiés aujourd'hui. La référence que fait Riopel à Rosa Luxembourg dans son œuvre dépasse toutefois le titre. L'artiste s'était intéressé à la militante et antimilitariste, ayant fait la lecture de sa biographie et de ses lettres de prison, des lettres rédigées pendant ses années d'incarcération. À l'époque, afin d'échapper à la censure de ses geôliers, Luxembourg avait codé certains de ses récits, l'éparsemant d'allusions à la nature et aux oiseaux, un motif récurrent dans l'œuvre de Riopel. Plusieurs ont ainsi vu dans le titre du triptyque un indice de la présence de codes et d'énigmes à décrypter pour en saisir le sens réel. Or, bien que Riopel honore dans son triptyque la révolutionnaire polonaise Rosa Luxembourg, c'est à une autre Rosa qu'il dédie son œuvre, sa Rosa Malheur. Tel était en effet le nom que Riopel donnait affectueusement à Joan Mitchell, son ancienne compagne. Ce surnom, un clin d'œil ironique à la peintre animalière Rosa Bonheur, témoigne du caractère tumultueux de la relation qui unissait les deux artistes. C'est à Paris, en 1955, que Riopel rencontre Mitchell. Le peintre non figuratif américain Sam Francis, un grand ami de Riopel, les met en contact. Riopel fréquente alors un cercle de jeunes peintres américains qui se réunissent au Café du Dragon, où ils partagent de fortes idées. Jusqu'en 1959, Joan Mitchell vit entre New York et Paris, où elle s'installe définitivement. En 1967, elle acquiert une grande demeure à Vétheuil, où Riopel et elle vivent la majeure partie de leur vie commune, jusqu'à leur rupture en 1979. Portée par une sorte de fièvre créatrice à l'annonce du décès de Mitchell, Riopel se lance corps et âme dans la réalisation de l'hommage à Rosa Luxembourg. Or, pour concevoir cette immense fresque, il a besoin d'espace. Il peint donc dans son atelier de l'île aux oies, une île privée reliée à l'île aux grues par des battures. Travaillant sans relâche dans des conditions difficiles, il termine l'imposante œuvre en moins de 2 mois. Pour réaliser son triptyque, Riopel reprend une technique qu'il avait observée dans l'atelier du peintre Ozias Leduc, alors que celui-ci gagnait sa vie comme décorateur d'église. Pour exécuter ses fresques, Leduc installait ses toiles sur des rouleaux, en peignant une partie à la fois, et lorsque celle-ci était sèche, passait à la section suivante en enroulant la toile sur elle-même. C'est exactement de cette façon que Riopel procède, travaillant à plat sur sa table de travail. En regardant les différentes vignettes qui composent l'hommage, on devine d'ailleurs facilement la grandeur de cette dernière. En 1980, délaissant les rendus épais et lourds de matière de ses œuvres des années 1950 et 1960, Riopel expérimente avec une facture plus aérienne grâce à l'emploi de peintures en aérosol. Sans sortir de la représentation, il utilise un procédé qui rappelle les traces laissées par les objets plutôt que les objets eux-mêmes. Ainsi, ces oiseaux et ces petits rongeurs morts, ces fougères et ces clous ne sont pas peints. Un à un, l'artiste les a placés sur la toile et en a vaporisé les contours à la peinture en aérosol. Une fois cette étape complétée, Riopel rehausse les scènes créées à l'acrylique, entourant et remplissant les formes. En suivant la progression de la fresque et la densification des motifs, on devine un Riopelle empressé, agité. On découvre les formes des objets qui l'entourent dans son atelier. Filets, pièces de moteur, pagaies, gants, etc. Une fois l'objet retiré, sa silhouette sur la toile manifeste à la fois sa présence passée et son absence actuelle. Cette façon d'évoquer des objets plutôt que de les représenter confère un caractère diffus à l'œuvre qui brouille les pistes et ouvre à un monde d'interprétation. Grâce à la construction du pavillon Pierre-Lassonde et à la création du passage Riopelle, les trois sections du célèbre triptyque peuvent pour la première fois être présentées l'une à la suite de l'autre, permettant aux visiteurs une immersion inédite dans l'œuvre de l'artiste.